bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julien Rosa et Iseut Sicard. À la réalisation Marie Placé, prise de son Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie.
Troisième jour de notre série consacrée à des histoires de géants. Hier, nous avons raconté l'histoire du colosse McDonald's et de son modèle de franchise réparti à travers le monde. D'un géant à l'autre, aujourd'hui, c'est sur la planète virtuelle d'Amazon que nous atterrissons. Fondée sur un modèle de logistique particulier, appuyé sur des innovations technologiques et numériques, Amazon a révolutionné le marché du commerce en ligne jusqu'à en changer les critères. Ainsi, la multinationale ne doit pas son succès à sa production, mais à la vente de celle des autres. Et ce sont ces méthodes de stockage, d'acheminement et d'organisation du travail qui font sa marque de fabrique et nourrissent aujourd'hui les controverses. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empire logistique Amazon en compagnie de David Gaborio, sociologue du travail, chercheur à l'Université Paris-Est et auteur d'une thèse intitulée « Des usines à colis, trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution ». Également avec nous, François Lévesque, professeur d'économie à Mines Paris Tech et auteur des « Habits neufs de la concurrence » publiés aux éditions Odile Jacob. À 14h50, les nouvelles de l'écho vous seront présentées par Arjuna Andrade. David Gaborio et François Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être qu'il faudrait commencer par raconter la particularité effectivement d'Amazon que j'ai commencé à évoquer, à savoir le fait de ne pas avoir vraiment créé quelque chose, mais d'avoir créé le moyen de faire vendre quelque chose.
Ils ont aussi créé quelque chose. Le moyen, évidemment, c'est cette chaîne logistique absolument incroyable et efficace dont on va beaucoup parler. Mais la création, c'est tout de même la place de marché et de faire en sorte que les gens peuvent commander un produit et le recevoir une journée après.
Alors, il faut dire qu'Amazon, c'est deux choses. À la fois de la vente en ligne, du e-commerce, et de l'autre, il y a ce qu'on appelle le marketplace. Il faut peut-être expliquer ce que c'est.
Voilà, c'est une place de marché. Donc, au lieu d'une place de marché physique, comme un magasin Carrefour, eh bien là, vous êtes sur Internet et il y a des centaines de milliers de références de produits. Vous choisissez celle que vous désirez et vous l'achetez et vous la recevrez un peu plus tard.
Alors la production, la vente directe ne représente pas grand-chose. Ce qui marche très bien, c'est de finalement avoir ramené tout un tas d'autres personnes qui vendent aussi sur le site.
Oui, c'est-à-dire que sur le site, il y a des produits d'Amazon, parce qu'Amazon est un producteur aussi, en fait. C'est un peu anecdotique, mais Amazon produit des couches-culottes, par exemple, et vend ses couches-culottes sur sa place de marché. Mais Amazon, effectivement, vend des produits fabriqués par d'autres, les expose sur son site, reçoit ses produits dans ses entrepôts, et vend ses produits aux consommateurs qui les souhaitent.
Alors on dit Amazon, c'est avant tout un modèle d'organisation, mais c'est aussi un modèle d'organisation du travail, David Gaborio.
Tout à fait, puisque en fait du point de vue logistique, Amazon n'a pas inventé énormément de choses, sauf peut-être la dimension. C'est des très très gros entrepôts avec beaucoup de main d'œuvre. Sauf que quand même le traitement de la main d'œuvre, l'exploitation de la main d'œuvre, pour utiliser un terme un peu ancien chez Amazon, a certaines particularités, notamment toute cette idée de mobiliser plus que juste un corps humain au travail, mais mobiliser ce qu'on appelle des subjectivités. Amazon, c'est pas seulement work hard, c'est aussi have fun. Donc, il y a toute cette idée de mobiliser.
Vous allez nous traduire tous ces termes qui vont agacer nos auditeurs.
Et de faire sourire le travailleur. Et ça, c'est assez particulier. Et Amazon, quand même, innove peut-être pas beaucoup du point de vue de l'exploitation de la main-d'œuvre, mais va plus loin et sur des très grandes dimensions.
Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a réutilisé aussi un certain nombre, repris à son actif, des théories qui sont celles du management du bonheur, par exemple ?
Voilà, c'est pas des choses qui sont nouvelles. La table de ping-pong dans l'open space, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. L'idée de, avec le travail ou à côté du travail, créer aussi de l'amusement, un aspect ludique et de motiver les gens à travers l'aspect ludique. Sauf que dans le monde ouvrier, c'est assez peu fréquent et c'est assez peu fréquent à la hauteur de ce que fait Amazon. C'est-à-dire créer des animations dans l'espace de travail, des concerts, des massages en salle de pause, malgré que les temps de pause soient extrêmement courts. ça va un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs dans le monde du travail.
Alors d'un point de vue macroéconomique, François Lévesque, on pourrait se dire que les multinationales, dans leur fonctionnement, sont à l'image des dernières évolutions du capitalisme. Alors là, en ce qui concerne Amazon, c'est un capitalisme numérisé qui a à son service à la fois les plateformes sur Internet, donc les logiciels qui vont aller avec, mais aussi toute une série de robots, de machines qui vont être utilisées dans les entrepôts d'Amazon.
Oui, c'est qu'il y a deux particularités aujourd'hui de ces transformations. La première, c'est les modèles de plateforme. Donc c'est cette idée, donc on retrouve ça chez Uber, on retrouve ça chez Amazon, c'est cette idée que on va avoir en fait une entreprise qui va emporter quasiment la totalité du marché. Pourquoi ? Eh ben parce que plus vous avez de chauffeurs Uber, plus vous avez de consommateurs qui vont avoir l'application Uber, plus vous avez de gens qui ont l'application Uber, plus vous aurez de chauffeurs Uber. Donc c'est cet effet boule de neige, en fait, qui est très récent dans son ampleur et qui fait que des entreprises comme Google ou Amazon ou Uber vont emporter quasiment la totalité du marché. Donc ça, c'est la première grande transformation. La deuxième grande transformation, c'est qu'on a des firmes qui sont globales, c'est-à-dire c'est pas simplement une domination d'une entreprise en Europe ou aux États-Unis, c'est le monde entier qui intéresse maintenant certaines entreprises superstars.
Alors on va écouter un extrait d'un édito écho de Dominique Seux dans le 7-9 de France Inter le 15 juillet 2015.
Amazon est le premier client de la Poste en France, 17% des chiffres d'affaires de notre Poste nationale. Aujourd'hui, Amazon vend des livres, mais aussi des chaussures, des fruits et légumes, des cours de maths, du stockage de données informatiques dans ce qu'on appelle le cloud, et des prestations de ménage. Ouf ! Bref, on trouve absolument de tout, hein, comme autrefois à la Samaritaine, mais en même temps, il faut le dire, il y a eu des superbes flops, c'était il y a peu de temps, comme dans la téléphonie. La recette numéro 1, c'est d'avoir été un des premiers sur le créneau du e-commerce, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Mais la recette numéro 2, c'est d'avoir sans cesse investi et encore investi. Jeff Bezos se lance tout le temps, encore aujourd'hui, sur de nouveaux territoires et il ne distribue rien, mais absolument rien, à ses actionnaires. Du coup, Amazon ne fait pas de bénéfices et même en perd très régulièrement. Au bout de 20 ans, ça devrait normalement avoir dégoûté ses actionnaires, mais non, ils doivent être masochistes et ils en redemandent. L'action a grimpé de presque 300% en 5 ans et même de 57% depuis janvier. La capitalisation, c'est 200 milliards de dollars, bien plus que le PIB de la Grèce. Excusez-moi de revenir à une autre actualité.
Alors, beaucoup de choses dites dans cet édito. Peut-être commencer par l'idée de vendre de tout. C'est le Everything Store Amazon. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ça, David Gaborio?
Alors, on peut dire déjà que ce n'est pas totalement nouveau en fait. Amazon, c'est un distributeur. Des grands distributeurs, on en a d'autres en France, et ils avaient déjà, à une autre époque, repris beaucoup de parts de marché. C'est les grandes enseignes de la grande distribution, Carrefour, Super U ou Leclerc, par exemple, qui ont su attirer les consommateurs pour tout type de produits. Alors, sur des gammes peut-être pas aussi larges, mais en tout cas, ça existait déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le numérique, avec les plateformes numériques et les logiciels qui sont utilisés, il y a une concentration qui peut-être est encore plus forte que ce qu'on a connu auparavant. Mais on peut voir ça dans une grande trajectoire qui est la prise de pouvoir des distributeurs sur les économies en général. Il y a une période où c'était les producteurs qui maîtrisaient les économies. Aujourd'hui, les distributeurs ont un pouvoir très important. Amazon s'inscrit dans tout ça, avec la différence d'une concentration peut-être encore plus forte et d'un modèle qui se veut vraiment hégémonique et qui veut empiéter sur toutes les parts possibles de la consommation.
Alors hégémonique sans être complètement monopolistique puisqu'il existe quand même des concurrents, mais il y a cette très forte concentration. On a le sentiment, François Lévesque, que Amazon est une sorte de gigantesque aimant. Alors à la fois parce qu'elle attire les consommateurs, mais elle attire aussi les vendeurs, les fournisseurs.
Voilà, c'est une place de marché, c'est la place de marché, the place to be, si on veut faire un peu d'anglais. Pourquoi ? Parce que tout le monde se dirige vers elle. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs ne passent pas par Google lorsqu'ils cherchent un produit. Ils vont directement sur Amazon. Et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par ceux, Amazon, c'est une croissance absolument incroyable. Donc, c'est l'obsession de la croissance. Donc, avoir le plus possible de produits, ça facilite évidemment la croissance du chiffre d'affaires. Amazon, c'est la première entreprise dans le monde qui a atteint 100 milliards de chiffre d'affaires en 20 ans. Donc, c'est absolument spectaculaire. Et pourquoi le cours de la bourse augmente ? Eh bien, le cours augmente parce que les investisseurs pensent que cette croissance va se poursuivre. Et c'est ça qui donne la valeur de 400 milliards. C'est une valeur boursière absolument incroyable d'Amazon, 400 milliards de dollars. Et cette valeur, ça correspond à une croissance de 16% par an d'ici les 10 prochaines années. Donc, c'est à Amazon de montrer qu'au cours des 10 prochaines années, elle va être capable, cette entreprise, de poursuivre un tel rythme de croissance.
Alors, en dehors de l'entreprise elle-même et sur la question du modèle de son organisation, il y a une particularité de gestion, c'est qu'effectivement, pour l'instant, elle ne redistribue pas à ses actionnaires et elle réinvestit systématiquement ce qu'elle gagne.
Ouais, ça c'est une grande nouveauté que partagent d'autres grandes entreprises de l'Internet, mais il y a l'obsession du consommateur. Et l'obsession du consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment le servir au mieux, mais ça veut dire que on va lui proposer des prix les plus bas possibles, alors que on va lui proposer une valeur la plus grande possible. Et au lieu de piquer la valeur des consommateurs en ayant des prix élevés, eh bien, et pour donner cette valeur à l'actionnaire, eh bien, ce sont les actionnaires dont on oublie. Hein. Amazon a longtemps perdu de l'argent. Au cours des 5 dernières années, Amazon, pendant 2 exercices, a perdu de l'argent encore. Et donc, c'est cette idée que les consommateurs doivent profiter et doivent être les premiers bénéficiaires des gains de productivité, de l'efficacité de cette entreprise, et pas les actionnaires.
Donc elle fonctionne essentiellement sur l'attraction, avec une sorte de cercle vertueux qui fait que justement les prix bas génèrent plus de demandes et ainsi de suite.
Voilà, les prix bas font les prix bas et la qualité, c'est-à-dire visiblement les consommateurs, mais ça a dû vous arriver à moi aussi et à David également, ont envie d'avoir tout de suite le produit. Et une des particularités d'Amazon, grâce à son système logistique, c'est de pouvoir faire en sorte que dans une heure, ça existe aux États-Unis, ou en tout cas dans une journée, vous allez être livré de ce que vous voulez.
Alors, il y a une réutilisation, justement, dans ce modèle, de techniques qui existaient avant, mais qui ont été à la fois peut-être encore plus rationalisées et d'une autre manière canalisées par ce système aussi de la plateforme numérique et des outils qu'elle offre. Donc, on va peut-être parler de ces histoires de logistique, David Gaborio. Quand on dit que c'est un fantastique outil logistique, c'est avant tout un outil de stockage, d'abord ?
C'est ça. Alors, d'abord, juste une chose, il faut quand même préciser que Amazon n'apporte pas que des bienfaits à son consommateur, puisque il faut quand même rappeler que son propriétaire est devenu la première fortune mondiale, donc il y a quand même de l'argent et de la valeur qui est créée dans tout ça et des personnes qui en profitent. Sur la logistique et sur les techniques de logistique, Amazon s'est toujours présenté comme un grand innovateur en logistique, avec par exemple une chose assez fondamentale, le fait de ne pas stocker les produits dans ses entrepôts en tenant compte de leurs particularités, de leur nature. On a toujours dans la logistique historiquement stocké l'eau d'un côté, les boissons d'un côté, l'épicerie de l'autre. Amazon a eu cette idée de tout mélanger, qui n'est pas une idée complètement nouvelle non plus, mais...
D'un grand bazar, en fait.
Voilà, l'idée d'un grand bazar où on ne tient pas compte de la nature du produit. Le seul intérêt qu'on a, c'est de savoir où est-ce que logistiquement on doit le placer pour que les temps de parcours, que ce soit des camions quand les produits se déplacent ou des ouvriers dans l'entrepôt, soient le plus court possible. Après, présenter ça comme une révolution, comme on l'entend parfois, c'est un petit peu fort. Il faut quand même préciser que la logistique, c'est pas un secteur de pointe où il y a des innovations fondamentales. On est quand même dans un secteur qui repose sur de la manutention de colis. Et par exemple, la masse salariale d'Amazon, c'est une part gigantesque de l'organisation. Donc le gain qui peut être produit, plus que sur des innovations techniques, des nouveaux produits comme on pourrait avoir dans d'autres secteurs, le gain qui peut être produit en logistique, il repose fondamentalement sur l'exploitation de la main-d'œuvre et sur la manière dont on va exploiter cette main-d'œuvre. Et c'est là-dessus qu'Amazon est très fort.
François Lévesque, petite parenthèse, la question de la logistique, c'est une question qui est assez ancienne en économie, en tout cas dans le domaine industriel, alors que pourtant elle est plutôt héritée du secteur militaire.
Du secteur militaire, mais aussi du commerce, parce que le commerce, c'est du transport. C'est du transport et la logistique participe à l'organisation du transport au mieux et de faire en sorte que les temps de parcours soient les plus faibles possibles ou que le coût pour qu'un colis ou qu'un conteneur vienne de Chine soit le moins cher possible.
Alors Amazon propose à la fois du stockage, vous venez d'en parler David Gaborio, mais aussi un mode expédition rapide. Et c'est là peut-être qu'on arrive dans une forme de capitalisme qui est décrit comme étant justement quelque chose de la spontanéité, de l'ordre de répondre à des besoins immédiats, c'est la course à l'expédition la plus rapide possible.
Alors oui, ça repose sur des méthodes de travail en entrepôt, sur un travail qui est très intense, qui est très rapide, qui est très contrôlé, sur de la traçabilité pour livrer un colis très très vite. Il faut que les flux d'informations soient gérés par des logiciels, il faut qu'à chaque moment on sache où se trouve le colis pour le faire avancer le plus vite possible. Il faut bien penser à chaque fois que ça se répercute en termes de conditions de travail. Quand on trace un colis, on contrôle aussi l'ouvrier qui derrière le manutentionne. Donc il y a toujours cette idée que ce que fait Amazon, les performances que réalise l'entreprise, sont aussi le fait de travail ouvrier dans des grands entrepôts et d'une vitesse, d'une spontanéité, j'aime pas trop le terme parce qu'on a eu cette impression que les livraisons Amazon, pendant un moment, on avait l'impression que c'était un petit peu magique, ça arrivait chez nous comme ça. Et tout le monde disait, j'ai entendu ces termes-là, que c'était du capitalisme numérique, de l'économie numérique. On disait même économie du savoir, parfois, pour Amazon. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on a pris conscience qu'en fait, le back-office, les coulisses de cette économie-là, c'est des grandes usines à colis, qu'on appelle les entrepôts, mais qui ressemblent à des usines, en fait. Des usines à colis où on fait travailler des ouvriers. Donc c'est pas si numérique et si spontané ou dématérialisé que ça en a l'air.
Alors ça, c'est une des particularités de tout ce que l'on met dans l'économie numérique, dans cette question, la question du territoire à savoir et des réalités matérielles qu'elles engendrent. Je vous propose d'écouter le philosophe Thibaut de Saint-Maurice, que vous allez entendre dans La Petite Philosophie sur France Inter le 19 janvier dernier.
L'ambition d'Amazon est assez simple, devenir le supermarché du monde ou le Everything Store, c'est-à-dire le magasin qui vend tout, comme le dit son fondateur Jeff Bezos, qui vend tout et à tout le monde. Mais Amazon franchit un pas de plus. Là où l'hypermarché a encore une implantation physique, géographique et donc finalement aussi culturelle, Amazon, lui, n'a même plus besoin d'implantation pour rencontrer son client. Pour parler comme le philosophe Gilles Deleuze, Amazon, c'est le stade supérieur de la déterritorialisation. Pour Deleuze, la déterritorialisation, c'est un concept qui permet de décrire un processus d'émancipation, de rupture ou de libération par rapport à des manières de faire, à des procédures établies ou à des implantations historiques. La déterritorialisation, c'est donc le fait de changer la donne d'un territoire constitué, de changer ses habitudes, de bouleverser un ordre. Mais si ça marche, c'est parce que Amazon joue sur les deux tableaux. D'abord sur celui donc de l'absence de territoire, mais Amazon joue aussi sur un autre tableau, celui de la mythologie du territoire. Amazon s'appelle Amazon, voilà, ce qui renvoie donc directement au fleuve Amazon, le plus puissant fleuve du monde, et à un territoire précis, l'Amazonie, poumon de la planète, forêt abritant encore d'ailleurs des tribus qui vivent dans le fantasme ou dans l'idéal de cette harmonie avec une nature généreuse qui comble leurs besoins. Voilà, en s'appuyant sur cette mythologie du territoire de l'abondance, Amazon retrouve le mythe de l'abondance originelle, hein, où tout était à portée de main ou à portée de clic. C'est donc le nouveau territoire de nos désirs suscités et excités par l'abondance, mais nos désirs ensuite qui sont orientés et domestiqués par les algorithmes, hein, pour finir par être exploités et rentabilisés. Parce qu'au fond, un territoire libéré reste rarement inoccupé.
François Lévesque, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Effectivement.
Sur France Culture, on aime les controverses, donc je ne serais pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour la déterritorialisation, prenons Google ou prenons Facebook, mais pas Amazon. Amazon est finalement incroyablement territorialisé. Les entrepôts, ils sont quelque part. Les chaînes logistiques, elles sont dans l'espace. Aux États-Unis, vous avez 70 villes qui sont en concurrence pour recevoir le prochain entrepôt d'Amazon. Et Amazon, l'an dernier, a acheté une chaîne de supermarchés aux États-Unis physique, une espèce de carrefour pour les États-Unis qui s'appelle Whole Foods. Donc Amazon est un bon exemple de firme moderne représentant ces grandes tendances du capitalisme nouveau qui est, elle, territorialisée.
Mais puis, tout simplement parce qu'elle vend des biens matériels.
Elles vendent
c'est
des
la différence
biens matériels.
Avec les GAFA que vous venez d'évoquer, non ?
Voilà, elles vendent des... Absolument, c'est pas une entreprise digitale, c'est pas Google qui, avec son moteur de recherche, n'est pas territorialisé. Elle se sert des données, évidemment, des gens qui vont sur ce moteur de recherche, parce qu'on peut les identifier géographiquement. Et si on identifie géographiquement les gens qui consultent le moteur de Google, et ben on peut leur présenter telle ou telle publicité. Mais le lien est extrêmement ténu avec le territoire pour une entreprise qui est complètement digitale.
Mais c'est peut-être là que réside la critique, justement, à savoir d'utiliser les canaux de l'économie numérique pour finalement vendre des biens matériels avec derrière, effectivement, des conditions de travail qui se retrouvent affectées par ce système, David Caborio.
C'est très important de la critique de rematérialiser ces activités-là. Amazon est une entreprise qui produit beaucoup de fantasmes et qui participe de la production de ces fantasmes en mettant toujours en avant des innovations technologiques qui vont du drone à la conquête de l'espace. Et ça, ça sert à dématérialiser, à faire croire qu'on était matérialisé. Et c'est faux, vous l'avez dit. Et même plus que ça, Amazon est inscrit dans des territoires et recherche des territoires avec certaines spécificités. Si on regarde par exemple l'implantation des entrepôts en France, on voit très bien que pour une partie de ces entrepôts, Amazon recherche des bassins d'emploi. C'est une activité qui demande beaucoup de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre peu qualifiée et peu regardante sur les conditions de travail. Et ça, c'est plus présent dans certains lieux du territoire que dans d'autres.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sélection particulière des bassins d'emploi?
Alors, ça n'a jamais été dit comme tel et c'est difficile de le faire dire à des responsables d'Amazon. Mais quand on regarde les lieux d'implantation, que sont par exemple Douai, Montélimar ou Chalon-sur-Saône, on est très clairement dans une logique d'implantation dans des bassins dits, de bassins d'emploi dits sinistrés, où il y a effectivement une forte pression sur les collectivités locales pour accompagner l'entrepôt, le financer, financer les emplois.
Alors ça mérite d'être précisé, hein, les collectivités locales subventionnent parfois l'implantation d'entrepôts.
Voilà, à Chalon-sur-Saône par exemple, ça a été à hauteur de 3 400 € par CDI créé. Au final, on est presque sur 1,5 million d'euros versés par le conseil régional à Amazon. Et c'est pas seulement ça, c'est financer des nouveaux emplois, mais c'est aussi aller chercher une main-d'œuvre dont on a besoin en très grand nombre dans des territoires où elle est disponible. Et ça, Amazon sait très bien le faire.
Alors, il y a une autre question qui est posée justement par la pluralité des activités d'Amazon, c'est celle de effectivement rencontrer en ligne son client et donc de créer un lieu de rencontre. C'est ce qui était évoqué dans cet extrait-là particulier, qui fait qu'elle va pouvoir avoir une offre très large puisque elle-même, elle intègre des tiers parmi les offrants puisqu'il est vendu de tout sur sa plateforme et beaucoup de choses qu'elle-même ne produit pas. Donc, ils vont simplement se servir de cette plateforme pour les vendre.
Voilà, c'est-à-dire qu'une particularité d'Amazon, c'est en fait, elle a besoin d'installations ou elle a besoin d'actifs pour ses propres affaires. Donc, elle a besoin d'entrepôts. Elle a besoin évidemment d'un site internet avec plein de références. Elle a besoin aussi de serveurs dans le nuage. Eh bien, sa caractéristique, c'est qu'elle partage.
Le nuage, ça mérite d'être expliqué. Hein. Il y a un cloud.
Voilà, il y a une des activités d'Amazon très peu connue du consommateur final parce qu'il ne la voit pas. Amazon propose des services pour stocker des données
en ligne, numérique.
En ligne pour utiliser des capacités de calcul et c'est de très loin le leader de ce marché du traitement et des capacités de données en ligne. Et donc Amazon partage, au lieu de garder tout ça pour elle, au lieu de garder sa chaîne logistique, au lieu de garder sa propre place de marché pour elle, au lieu de garder ses serveurs, elle le partage avec d'autres entreprises et évidemment elle le partage moyennant finance. Et donc
en prenant des commissions sur les ventes, c'est plus que du partage.
Et donc elle travaille avec ses concurrents finalement. C'est-à-dire que elle ouvre la porte à des concurrents pour étendre son marché et elle coopère avec ses concurrents. Et donc ça c'est une dimension très particulière au lieu d'être refermée sur elle-même et que ses actifs, eh bien, c'est seulement pour elle qu'elle les utilise, eh bien, elle en fait aussi des services qu'elle offre ou en tout cas qu'elle vend à des concurrents qui fabriquent des produits éventuellement concurrents de ses propres produits.
Ça va même un petit peu au-delà puisque c'est ce qui génère le plus d'argent chez Amazon. C'est le fait justement de mettre à disposition, d'intégrer des tiers qui vont proposer aussi tout type de produits, ce qui va augmenter son attractivité, à savoir des plus petits produits aux plus grands.
Voilà, et ça fait partie effectivement de son souci de croître à grande allure. Et croître à grande allure, eh bien, on va encore plus vite si on rassemble autour de soi des produits qu'on ne produit pas eux-mêmes, ou en tout cas des variétés de produits qu'on peut produire soi-même, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais je reprendrai aussi un terme que vous venez d'utiliser, qui est celui de la pluriactivité ou la diversification d'Amazon. C'est sans doute l'entreprise géante américaine des 20 dernières années, la plus polyvalente, la plus diversifiée. On parlait tout à l'heure du fait qu'elle produit, elle a des produits physiques, mais elle est aussi dans le digital. Elle vend des livres sous forme digitale. Elle a un Kindle pour vendre des livres qu'on ne lit que sur écran. Elle a aussi son propre site de streaming de musique. Donc, on a l'impression qu'elle fait tout, cette entreprise. C'est-à-dire qu'elle vend du digital, elle vend du physique, elle vend des services informatiques, elle fait de l'intelligence artificielle, elle investit dans des moyens de transport comme les drones. Donc, c'est absolument frappant de voir comment Amazon est une firme qui fait tant de choses différentes. Microsoft fait pas grand chose de différent. Microsoft fait évidemment maintenant des petites consoles pour jouer, enfin des consoles pour jouer et aussi ses logiciels Windows et Office, mais Google fait un moteur de recherche et un peu de choses à côté. Mais Amazon, c'est absolument incroyable, tout ce que cette entreprise propose de très différent, avec des métiers différents.
Elle se fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis pour cette raison. On peut dire qu'elle est l'ennemi numéro un des libraires et d'un certain nombre d'autres types de commerçants. Mais ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, c'est l'idée du géant plus américain.
Alors, c'est devenu l'ennemi et c'est intéressant de voir ça, en fait. C'est devenu l'ennemi, et c'est un peu l'ennemi facile, en fait. Elle a tous les caractéristiques de l'ennemi parfait. C'est une entreprise américaine qui paye pas ses impôts, qui s'est attaqué à un produit, au départ, le livre, qui est un produit très symbolique pour la France.
Donc, qui paye pas ses impôts, vous voulez dire qui fait de l'optimisation fiscale.
Qui fait de l'optimisation fiscale, si vous voulez. Et du coup, c'est devenu l'ennemi, mais en devenant l'ennemi, c'était très intéressant que ça devienne un ennemi, mais c'est devenu l'arbre qui cache la forêt aussi. Amazon a pas un modèle si particulier que ça. La logistique, c'est plus large que ça. Quels que soient les produits qu'on consomme, qu'on aille dans la grande distribution, qu'on aille dans des grands distributeurs de produits culturels très connus, on a recours à ce type de travail, à ce type d'entrepôt. Les produits qu'on consomme, ils passent par ces énormes cubes de tôle ondulée qui existent physiquement et qu'on voit le long des autoroutes, qui sont d'ailleurs situés à côté des data centers souvent, parce que même le serveur numérique a une implantation physique, hein, tout ça existe physiquement. Donc tout ça est beaucoup plus large que le simple problème Amazon, et c'est intéressant d'avoir pointé le souci Amazon, autant ça nécessiterait d'élargir un petit peu pour comprendre un peu plus largement ce que ça veut dire de consommer en ayant recours à la grande distribution, et donc d'avoir recours aussi à ce type de métier dans des entrepôts et de faire marcher une main d'œuvre ouvrière dans des usines à colis.
Donc en réalité, elle serait emblématique, ou est-ce que ce serait son échelle qui la différencierait des autres ?
C'est peut-être son échelle, sa communication aussi, tout ce qu'on disait sur les drones et sur les
PDG grands, Jeff Bezos.
Le PDG charismatique, avec une communication qui ressemble beaucoup à celle d'Apple, par exemple. On parle beaucoup de révolution, tout est révolutionnaire, une révolution logistique. Quoi. Donc il y a quand même une force de frappe qui est plus impressionnante que le reste. Mais pour autant, ce n'est pas radicalement différent. Si on veut critiquer Amazon en partant du fait que ça fait travailler des ouvriers dans des énormes usines, c'est pas tellement différent que ce qui se produit quand on fait nos courses chez H&M, Zara, chez Carrefour, chez Leclerc, chez Super U ou n'importe où ailleurs dans la grande distribution.
François Lévesque, il y a quand même une particularité, c'est que avec le système d'abonnement qu'a généré justement la plateforme Amazon, notamment pour les abonnements Prime, etc., ça a généré une baisse des coûts de l'acheminement, de l'expédition notamment des produits. Et ça a presque changer la donne sur le marché justement de l'expédition en ligne, puisque maintenant il y a très peu de frais de port ou en fonction du nombre d'achats, etc. Donc elle a d'une certaine manière changé les règles aussi des coûts.
Alors elle a changé les règles de coûts parce que c'est une puissance absolument incroyable pour réduire les coûts, et notamment réduire les coûts dans la logistique, dans l'acheminement, dans le stockage. Mais sa principale transformation, quand même, c'est que elle substitue au temps qu'on passe à aller au supermarché, à choisir au supermarché dans les linéaires le produit et les produits qu'on veut, à se retrouver avec un caddie qui correspond à l'ensemble des produits qu'on veut à un moment donné. Eh bien ça, au lieu de le faire vous et moi dans les supermarchés ou dans un petit épicier du coin, eh bien ce sont des salariés, c'est du travail payé qui le remplace. Et donc une transformation absolument incroyable, avec une conséquence évidente en termes d'emploi. Mais c'est ça la particularité d'Amazon. Et donc les coûts...
Après, ça va poser d'autres questions. Quel emploi, quelle rémunération ?
Amazon est très fort pour réduire ses coûts et a évidemment intérêt à réduire ses coûts parce qu'elle est quand même en concurrence avec les supermarchés physiques. À partir du moment où c'est vous qui allez au supermarché, Carrefour ne vous paye pas pour aller au supermarché pour sortir les produits des linéaires. En revanche, Amazon doit faire ça, doit payer des chauffeurs pour aller jusqu'à chez vous et doit payer des gens qui assemblent le panier que vous avez commandé.
Et pourtant, vous ne payez pratiquement pas la livraison. Alors, et ça veut dire qu'il faut bien que ça coûte à quelqu'un. Donc ça va se jouer sur les salaires, ça va se jouer sur quoi ?
Donc ça coûte in fine, de toute façon ça coûte toujours au consommateur, d'accord ? Mais le point, c'est que il faut pas oublier, on a tendance à penser qu'Amazon est aujourd'hui que le e-commerce a dépassé le commerce physique. Amazon est beaucoup plus petit que Walmart aux États-Unis, qui est l'entreprise de distribution la plus importante. Et donc Amazon doit toujours être compétitive alors qu'elle est dans une situation a priori plus défavorable avec le marché physique. Situation plus défavorable, pourquoi ? Parce que, eh bien, Carrefour ne paye pas ses consommateurs pour venir dans le supermarché et pour faire cet assemblage du panier dans le caddie, alors que Amazon doit le payer. Donc Amazon doit absolument réduire les coûts logistiques pour être compétitif par rapport à la distribution physique. Et ça c'est clé. C'est-à-dire que si Amazon a besoin d'être efficace dans la logistique et a besoin de servir le consommateur le plus vite possible, c'est parce que il y a toujours une concurrence avec le physique. Et le physique, c'est aussi, il me manque des lames de rasoir, je peux aller chercher des lames de rasoir et une demi-heure plus tard, j'ai des lames de rasoir. Et j'ai pas besoin d'attendre 5 jours. Donc Amazon, aujourd'hui, eh bien, elle peut vous apporter des lames de rasoir en 1 heure aux États-Unis ou en tout cas en 1 journée.
Dans les grandes villes, oui.
Donc n'oublions pas la concurrence avec le physique.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, call me. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it.
Vous écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho par Maïlys Bessery.
Un instant, s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer 0.
0.
1.
1.
2.
2.
Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter.
OK.
Client Dunkerque. Total mission 43 colis.
Cinq, trois, quatre.
20 cartons.
3 OK.
3 restes 17.
2 OK.
2 restes 6. Quantité, total 20, validé 20, bouteille.
2, 1, 3.
2 cartons.
2, OK.
77.
1, OK.
152.
On n'est plus tout seul. On a quelqu'un qui nous parle. Je suis à peu près convaincu que la technologie libère l'homme, jusqu'à un certain point. Là, je suis libre, hein. Je peux arrêter de faire une mission... Sortir, aller prendre un café, revenir, recommencer à travailler, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas tenu par la machine. C'est l'inverse. C'est moi qui tiens la machine. J'espère pour longtemps. Je suis optimiste.
Alors, c'était l'extrait d'un documentaire de Philippe Borel, Un monde sans humain, sorti en 2012. On entendait donc un ouvrier qui travaille dans un entrepôt à Beauvais et il a sur les oreilles un casque qui lui dit ce qu'il doit faire. David Gaborio, alors là, on retrouve toute une part des critiques adressées à Amazon qui sont celles justement d'utiliser des machines et des machines qui contraignent à la cadence, qui contraignent aussi en termes de tâches.
C'est ça. Alors chez Amazon, c'est pas de la commande vocale, c'est comme ça que s'appelle le système. Chez Amazon, on a des petits écrans tactiles qui indiquent tous les colis qu'on doit prendre. Ça crée à peu près le même effet que la commande vocale, avec quand même un degré supplémentaire de contrainte. Quand on est sous commande vocale, il y a cet effet gênant d'une voix numérique qui donne des ordres aux ouvriers. Et par ailleurs, contrairement à ce qu'on peut entendre dans ce reportage, et vérification faite, en fait, c'est pas vraiment un préparateur de commande qui s'exprime dans le reportage, mais un responsable syndical, d'un syndical plutôt proche de la direction dans cette entreprise. Puisqu'en fait, ce qu'il dit est à l'opposé total de ce que vous diront la plupart des ouvriers de la grande distribution. Donc la commande vocale, c'est dans la plupart des entrepôts de la grande distribution alimentaire, dans à peu près 90% des entrepôts, c'est mis en place et tous les ouvriers le disent, c'est une perte d'autonomie très importante. C'est un outil qui est très contraignant, qui va très vite, qui crée beaucoup de contrôle aussi. On peut surveiller à chaque instant ce que font les ouvriers.
Donc c'est pas une spécificité d'Amazon.
C'est pas une spécificité d'Amazon. On peut retrouver même des formes d'outils de contrôle, d'outils numériques de contrôle qui sont encore plus gênants que ce qu'on voit chez Amazon avec les écrans tactiles dans la grande distribution classique et la commande vocale en fait partie.
Alors peut-être c'est l'occasion d'en parler dans la question de l'usage de ces technologies sur lesquelles aussi se fondent ces systèmes logistiques. Vous parlez d'écrans tactiles, les écrans tactiles définissent des trajets et donc une forme de traçabilité de chaque geste.
C'est ça. En fait, à chaque fois que l'ouvrier réalise une tâche, il la valide et l'écran tactile va lui indiquer le prochain colis, le prochain produit à sélectionner, avec un décompte, ça c'est spécifique Amazon, hein, en secondes, ça va s'afficher 33 secondes, 32, 31, 30, et l'ouvrier doit, à un rythme qui est donc très contrôlé, aller chercher ce produit et à nouveau le valider. Et à chaque fois qu'il valide un colis, qu'il le fasse par commande vocale ou qu'il le fasse avec un pistolet scanner, en fait il y a le petit écran tactile et le pistolet scanner, à chaque fois on peut le contrôler et savoir où il est. Tout ça, ça crée du contrôle, ça crée de l'intensification du travail, c'est des métiers qui s'accélèrent beaucoup, ça crée des métiers très répétitifs, très physiques. Chez Amazon, les ouvriers font 25 à 30 km tous les jours, c'est un métier qui est très fatigant. Dans les entrepôts de la grande distribution qui fonctionnent sous commande vocale, on a des ouvriers qui portent plusieurs tonnes de colis, jusqu'au maximum jusqu'à 10 tonnes de colis dans les fruits et légumes, donc de produits soulevés du haut vers le bas et déposés sur des palettes. On atteint des tonnages journaliers, ça s'appelle, des ports de charge très très importants.
Alors pourquoi c'est plus important? C'est une forme de... C'est la rapidité qui est changée, c'est le rythme qui est changé, c'est-à-dire que la machine va faire gagner du temps. Mais la charge de travail augmentant, elle va créer des dommages corporels.
C'est ça, ça va accélérer les gestes très concrètement. Et aussi, ça va faire disparaître tout un tas de savoir-faire. Dans la logistique, les ouvriers avaient leur savoir-faire, une façon de construire la palette, par exemple, qui leur permettait de faire des belles palettes et de bien les charger dans les camions. Donc il y avait plein de petits savoir-faire comme ça. Quand on instaure un outil numérique comme la commande vocale ou l'écran tactile, on fait disparaître les savoir-faire en imposant un script. On doit suivre un scénario, et c'est l'ordinateur, le logiciel, puisque c'est ça finalement la vraie machine, c'est le logiciel qu'il y a derrière, qui nous impose un scénario à suivre. Donc on n'a plus aucune autonomie, on peut plus anticiper sur les tâches à réaliser, et tout ça, on le sait aujourd'hui, c'est facteur de problèmes de santé, c'est des métiers qui deviennent pathogènes, parce qu'ils sont très contrôlés et intensifiés.
Donc la question, François Lévesque, de savoir justement si ça crée de l'emploi et quel type d'emploi ça crée, alors là, ça pose aussi la question effectivement à la fois des conditions de travail, du mode d'organisation de ces emplois-là.
Alors, sur l'emploi, je vais y revenir, mais avant, une observation sur une question qui est assez général en fait, c'est la complémentarité ou la substituabilité entre la machine et l'homme. Et ça, c'est quand même un vieux problème d'économie. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, est-ce que c'est la machine, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est une combinaison entre les deux, qui peut donner les plus grands gains de productivité. Et les gains de productivité, ça permet de réduire les coûts. Donc là, Amazon va chercher dans son organisation du travail, comme d'autres entreprises, à trouver le meilleur équilibre entre les hommes et les machines pour obtenir les coûts les plus bas ou les délais les plus bas ou les coûts pour dans un délai le plus faible possible.
Enfin, le meilleur équilibre, on ne sait pas.
Non, le meilleur équilibre économique, oui. C'est-à-dire qu'on peut faire quand même l'hypothèse que il y a des réflexions, des calculs pour savoir si à tel moment, eh bien, l'algorithme permet d'aider la machine ou tel robot va remplacer l'homme. Parce que le prix de l'homme ou le prix d'une heure de travail, eh bien, il faut le comparer au prix d'un robot qu'on va amortir pour faire telle tâche. Donc ça, c'est un vieux problème d'économie sur la productivité et sur les liens entre homme-machine. Aujourd'hui, l'équilibre est celui-là, mais c'est un équilibre très dynamique. C'est-à-dire qu'il est possible que cette recherche de gains de productivité, progressivement, avec l'intelligence artificielle et ses progrès, eh bien, il y ait de moins en moins d'hommes dans les entrepôts d'Amazon et des autres grands de la distribution, et de plus en plus de robots et de plus en plus de données traitées par les algorithmes. Alors, ça, on ne sait pas. Mais récemment, on a parlé beaucoup de l'acier. Vous avez une aciérie en Allemagne, qui est une très grande aciérie moderne. Il y a 14 personnes qui travaillent dans l'aciérie. Et dans cette aciérie, il y a 20 ans, dans l'aciérie avec le même volume, vous aviez des milliers de personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue, mais on ne sait pas comment ça va évoluer en fonction du coût du travail, du coût des robots, des progrès de l'intelligence artificielle.
Alors l'autre question qui est posée, c'est aussi une question ancienne qui est revisitée, c'est la question d'une forme de taylorisme, de rationalisation des tâches et de leurs conséquences à la fois sur la santé, mais aussi sur l'équilibre des personnes qui travaillent dans ces usines. On parle d'Amazon, mais on parle de tous les grands distributeurs.
Non, mais effectivement,
on parle d'un secteur d'activité.
On peut penser à la Ford T et Ford en 1908 et l'invention de la chaîne pour la production d'automobiles. Donc là, avec des efforts de productivité et d'efficacité absolument incroyables pour produire à grande échelle des automobiles et avec cette invention du travail à la chaîne. Donc ça me fait penser un peu à ça, ce qui est en train se passer dans les entrepôts. Et pour le chômage, je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Est-ce que ça crée plus ou moins de chômage? Mais avant cette question-là, il y a effectivement, est-ce que ça crée des emplois où les gens sont très mal à l'aise ou est-ce que ça crée des emplois où les gens sont émerveillés?
Non, c'est un très bon exemple pour montrer que le taylorisme est loin de s'être épuisé et d'avoir disparu. Au contraire, il peut se renouveler avec les technologies, avec l'ordinateur. On peut parler d'une sorte de taylorisme assisté par ordinateur puisque c'est vraiment ce qui se produit avec des tâches très rationalisées. Et bien sûr, ça permet de réduire les coûts, mais ça permet de réduire les coûts dans une optique de profit. Il faut voir qu'à côté de ça, il y a un certain nombre de coûts qui sont créés par ce type de métier, ce type de travail, qui sont des coûts sociaux, et notamment en termes de santé. Ça, l'entreprise, Amazon comme d'autres, ne les prend pas tous en charge. C'est la sécurité sociale qui les prend en charge, c'est la société qui les prend en charge. C'est aussi le chômage, en fait, comme Amazon a beaucoup recours à des intérimaires. Le travail est si intense qu'en fait, ces intérimaires-là sont obligés d'utiliser des périodes de chômage pour se reposer. Et pendant ce temps-là, c'est la société qui paye leur repos, ce qui permet à Amazon de les faire travailler d'une manière très très intense.
Alors, ça nous fait venir sur cette question de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'emploi? Alors, est-ce que c'est vrai que depuis l'introduction d'un certain nombre de grandes technologies et de robots dans les entrepôts, il y a moins d'ouvriers? Ou est-ce que finalement, il y a plus d'ouvriers que ce qu'on pourrait croire, David Gaborio?
Alors non, en fait, c'est des données qui sont difficiles à calculer. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouvriers dans la logistique. C'est un secteur ouvrier qui prend de plus en plus d'importance. Donc il n'y a pas de diminution de la main-d'œuvre dans la logistique. C'est un secteur qui produit beaucoup de main-d'œuvre.
Donc elle se déplace simplement, la main-d'œuvre.
Donc elle se déplace.
C'est pas de la substitution du
gros,
travail vers les machines.
Ce qui s'est passé quand on parle de désindustrialisation, qui est un terme pas tout à fait juste, c'est qu'on a perdu des ouvriers dans des entreprises de type usine manufacturière où on fabriquait des produits. Ça, maintenant, on les fabrique très loin. Par contre, on a d'autres mondes ouvriers, comme la logistique, qui sont en plein essor. Et est-ce que ces ouvriers vont disparaître? Je sais pas. Moi, ça me paraît un horizon très très loin que de professer une diminution, voire disparition de ce type d'ouvriers. Aujourd'hui, ils augmentent. Ils augmentent, par contre, ce qui est important, c'est de voir la différence entre ce qui se passe en termes statistiques, un emploi qui est en train de progresser, un emploi ouvrier qui progresse, et la communication que font les entreprises, et en particulier que fait Amazon, sur cette idée d'une robotisation, d'un remplacement des ouvriers par les robots. On a tous vu circuler, peut-être pas tous, mais moi en tout cas ça m'a frappé, on l'a beaucoup vu sur nos murs Facebook, des publicités d'Amazon qui a racheté une entreprise qui va, des petits robots préparateurs de commandes qui préparent les commandes tout seuls. Et il y a un décalage énorme entre la communication que Amazon fait
les drones,
à ce moment-là, et ce qui se passe aujourd'hui. Quand Amazon construit un entrepôt encore aujourd'hui, il n'est pas prévu pour accueillir des robots, il est prévu pour accueillir des milliers d'ouvriers.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement des emplois créés? Est-ce que effectivement il y a une précarisation du secteur ou est-ce qu'on se trouve de toute façon dans un secteur qui a toujours été précaire? Le secteur ouvrier était précaire déjà dans le domaine aussi de l'industrie lourde.
Ça l'a toujours été, mais là aussi Amazon, et c'est peut-être là de mon point de vue qu'Amazon innove le plus fortement, dans son modèle de management. On l'a dit, dans les entrepôts Amazon, déjà il y a un contrôle très élevé du travail, il y a une intensification très élevée du travail, mais aussi le recours à un turnover qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que la main-d'œuvre tourne beaucoup. On reste peu de temps chez Amazon, et c'est pour ça qu'Amazon a aussi besoin de s'implanter dans des secteurs où il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible, dans des bassins d'emploi sinistrés. Parce que Amazon fait beaucoup, beaucoup tourner sa main-d'œuvre, utilise l'intérim à très grande échelle, à tel point que dans les entrepôts Amazon, maintenant, il y a des agences d'intérim qui sont directement présentes dans l'entrepôt sur site. À tel point également que Amazon utilise beaucoup des systèmes de transport pour aller chercher des ouvriers parfois très très loin, parce qu'ils ont toujours besoin de cette main-d'œuvre ouvrière. C'est des bus qui par exemple vont aller chercher des ouvriers à plus de 100 km de l'entrepôt sur des périodes de rush importantes. Et par ailleurs, ça va pas empêcher Amazon de faire des publicités sur le rush de Noël avec des machines qui tamponnent tout seul des colis. Donc vous voyez le décalage.
On va entendre Jean-Baptiste Mallet au micro de Raphaël Montou. C'était dans le 5-7 de France Inter du 12 août 2013.
Je me suis aperçu que Jeff Bezos, donc PDG ultra-libéral, hein, qui se revendique lui-même d'une idéologie politique qui est le libertarianisme, a organisé, en fait, dans le cadre de ses entrepôts, un nouveau collectivisme. Et lors des prises de poste, hein, avant de débuter la nuit, puisque j'étais en équipe de nuit, j'ai assisté à des discours qui étaient des discours, en fait, stakhanovistes, hein, dans lesquels on nous demandait de nous dépasser, de dépasser les performances, de dépasser le plan. Et il faut savoir que chez Amazon, il n'y a pas de cadence imposée. On nous demande chaque jour d'aller plus vite que la veille, hein, c'est assez édifiant. Et il y a un rapport idéologique au travail. Alors c'est dans le cadre en fait de l'encadrement, puisqu'on est tracé, suivi à la trace, donc il y a régulièrement des coups de bâton qui peuvent tomber quand on n'est pas suffisamment productif. Et puis il y a aussi la carotte, donc tout un paternalisme qui a été réinventé, une convivialité artificielle qui est développée. Et effectivement, à la fin de mon enquête, j'ai eu véritablement l'impression qu'Amazon avait recréé un collectivisme dans le cadre de ses entrepôts, qui sont bien évidemment cachés et fermés à la presse.
Alors Jean-Baptiste Mallet, journaliste qui s'était fait embaucher dans un entrepôt d'Amazon et qui ensuite a écrit un livre sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez justement, François Lévesque, de cette question-là? La question effectivement à la fois de créer une sorte de nouveau paternalisme dans l'organisation et puis de l'autre finalement de revenir sur une forme de discours productiviste, stakhanoviste avec la carotte et le bâton.
En tant qu'économiste, j'ai pas une vision suffisamment fine pour répondre à cette question-là. Les économistes raisonnent entre emploi qualifié, emploi non qualifié, s'intéressent à la création d'emplois ou à la diminution d'emplois. Et donc ici, Amazon emploie beaucoup de travailleurs non qualifiés. Hein. Donc c'est pas simplement des geeks et des spécialistes ingénieurs de l'intelligence artificielle. Et globalement, on crée sans doute plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez Amazon... l'entreprise elle-même, eh bien, l'entreprise elle-même a son périmètre, elle crée des emplois. Il y a 500 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans cette entreprise. Il y en avait un peu moins de 300 000 il y a un an et demi. Donc, elle crée des emplois. Si vous élargissez le périmètre, elle détruit aussi des emplois parce que, eh bien, il y a une substitution entre des gens qui travaillaient chez Carrefour ou plutôt chez Walmart et des gens qui travaillent sur la place de marché d'Amazon. Et quelqu'un qui travaille sur la place de marché d'Amazon, eh bien, donc, derrière ce site de vente, il y a très peu de personnes pour remplacer. Vous prenez peut-être un dixième, 0,1 personne pour remplacer une personne qui travaille chez Carrefour ou chez Walmart. Donc à ce périmètre, il y a une destruction d'emplois. Plus Amazon prend de la part de marché sur le commerce physique, eh bien plus il y a l'emploi détruit. Mais si vous élargissez encore le périmètre, et ce dernier périmètre est vraiment le plus légitime, Amazon crée et créateur d'emplois nets. Si vous élargissez au nombre d'emplois créés, de chauffeurs pour livrer chez les clients, de responsables ou en tout cas d'ouvriers dans les entrepôts. Donc si vous tenez compte des préparateurs de commandes, en fait, il y a une création nette positive d'emplois. Donc pour résumer, en net, Amazon et le commerce électronique créent des emplois. Même si il y a une destruction dès lors que la part de marché du commerce électronique gagne sur la part de marché du commerce physique.
Je voudrais vous faire écouter le son du témoignage de Jacques Ellul dans le documentaire La trahison de la technique, un portrait de Jacques Ellul réalisé par Yad Van Bokkel en 92.
C'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. Mais ça, c'est typique de notre société moderne. Alors que dans une société traditionnelle, eh bien, on pose toujours cette question-là. Si je fais ceci qui perturbe, qui dérange l'ordre du monde, qu'est-ce que ça va coûter ? Tout progrès technique se paie. Tout bonheur de l'homme se paye. Il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer.
David Gaboriau, est-ce que finalement c'est cette question-là qui se pose à nouveau à travers ce modèle des grands entrepôts, ce modèle d'organisation du travail, à savoir les machines, les données qu'elles laissent, les traces, y compris des consommateurs sur Internet, et ce que la plateforme Amazon ou d'autres vont pouvoir en faire, le prix de la technique dans les entrepôts, est-ce que ça va pouvoir faire aussi aux gens qui y travaillent, est-ce que c'est ces questions-là qui se posent, la question du coût, du prix de la technique sur les hommes?
Tout à fait. Quand Jacques Ellul dit que la technique est sacrée, on peut le voir d'une certaine manière, si on prend le problème Amazon, c'est qu'on nous montre pas on regarde pas la vraie réalité de la technique. On regarde la technique, le progrès technique sur des trajectoires très lointaines ou avec des futurs absolument radieux. Il faut regarder la technique au présent. Il faut pas la regarder seulement dans nos usages quotidiens du smartphone ou de l'ordinateur. Il faut la regarder dans les usines, par exemple. Et ce qui est intéressant quand on regarde la technique dans les usines, c'est que ce qu'elle produit est à l'inverse, très souvent, pas toujours, mais très souvent, de l'image qu'on a d'un travail plus qualifié, plus moderne, plus souple, dématérialisé. Amazon montre très bien ça, la logistique en général montre très bien ça. Donc voilà, il faut non seulement regarder les destructions d'emplois, parce que je suis pas sûr qu'on puisse dire que Amazon au final crée de l'emploi si on regarde toute la disparition des libraires par exemple ou du petit commerce et la concentration que représente Amazon. J'ai du mal à croire qu'au final on puisse créer de l'emploi. Mais en plus, il faut pas seulement regarder les destructions d'emploi, mais le type d'emploi qui est créé.
Mais encore une fois, on crée de l'emploi, pardonnez-moi, de l'emploi parce que on transforme en emploi salarié un travail qui était fait par vous et moi. Un travail domestique.
Et on supprime des tas de libraires.
C'est ça l'intuition, c'est ça le principe qui fait que Amazon et le commerce électronique créent de l'emploi, parce qu'ils créent des emplois salariés, alors qu'auparavant, ce travail qui consistait, ou ce temps qui consistait à aller chercher un produit et remplir son caddie et retourner chez soi, eh bien, avant, c'était pas un emploi salarié. C'est pour ça qu'en net, le commerce électronique crée des emplois salariés.
C'est des calculs qui sont extrêmement compliqués et ça
mais
me semble compliqué.
Mais c'est pas parce que les calculs
le
sont compliqués
comme ça,
qu'il n'y a pas de résultat généraux.
Quand on concentre à ce point-là et au point où le fait Amazon des activités sur des mêmes lieux, dans des très grands espaces et dans des systèmes de type usinier, dans des grosses usines, a priori, on fait plutôt disparaître de la main d'œuvre. Mais c'est peut-être pas le plus important. Moi, ce débat-là ne m'intéresse pas forcément. L'important, c'est de voir qu'est-ce qu'on crée comme nouveau type de métier et est-ce qu'on a envie de ces métiers-là, qu'on soit en train de les réaliser soi-même, et ça c'est pas le cas, les gens qui sont dans ces métiers-là sont en souffrance, hein, c'est des métiers qui sont extrêmement difficiles et la plupart des ouvriers Amazon, leur horizon c'est d'essayer d'en sortir. Donc est-ce qu'on veut créer ça, est-ce qu'eux l'acceptent et est-ce que nous on accepte en tant que consommateurs de que notre consommation pratique, facile, livrée à domicile repose sur ce type de métier-là.
Mais là où je vous rejoins,
oui.
C'est qu'effectivement, l'Internet, en fait, c'est pas simplement des métiers d'ingénieurs et de spécialistes de l'intelligence artificielle. Amazon le montre, mais aussi Uber, c'est aussi la création d'emplois non qualifiés et souvent précaires.
C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Arjuna Andrade, bonjour.
Bonjour Annelise, bonjour à tous.
Quelles sont les nouvelles du jour ?
Eh bien, j'ai voulu m'intéresser aujourd'hui à une partie moins connue, mais très profitable du business d'Amazon, à savoir sa plateforme de cloud, Amazon Web Services, ou AWS. Parmi les offres proposées de machines virtuelles de calcul, depuis les nuages ou des services de stockage de fichiers en ligne, avec des noms aussi barbares que poétiques comme l'Amazon Elastic Compute Cloud. En réalité, cette branche discrète de l'empire Amazon a été plébiscitée par nombre de jeunes pousses du web, appelées à devenir grandes, telles qu'Instagram, Pinterest, Foursquare ou encore Netflix. Ce qui a fait le succès de cette offre, c'est qu'elle est disponible à la demande, c'est-à-dire que l'internaute paye uniquement pour ce qu'il consomme. Pas d'abonnement, pas d'engagement. Les services sont facturés à l'heure et les données aux gigas utilisés. Des modalités très utiles pour une entreprise encore en gestation qui ne sait pas de quoi le lendemain sera fait.
Et la firme mise également gros sur l'intelligence artificielle.
Effectivement, le géant de Seattle a ainsi fait le pari de démocratiser et de favoriser l'usage par ses utilisateurs du machine learning par des outils mis à leur disposition tels que des programmes de reconnaissance d'images, de conservation vocale ou de retranscription. Cela permet aux utilisateurs de gagner du temps. Au lieu d'entrer des lignes de code, ils peuvent directement utiliser les outils proposés par AWS.
Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le machine learning ?
Alors, je ne suis pas un expert, mais pour faire simple, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui se fonde sur l'analyse de données en très grand nombre, les fameux big data, par des algorithmes intelligents capables d'apprendre et de tirer des prédictions de ces analyses. Pour faire encore plus simple, on donne un exemple à une machine, un exemple dont les résultats sont connus. L'ordinateur va alors faire la différence entre ses prévisions et les vrais résultats. Cela va lui permettre d'affiner ses prédictions, et bien sûr, plus on fournit de données à la machine, plus ses résultats sont précis et proches de ceux attendus. C'est donc un formidable outil d'analyse qu'Amazon met au service de ses clients, de quoi asseoir encore la suprématie de ce géant dans le secteur du cloud, alors que la firme de Seattle détient déjà 44% du marché, soit davantage que ses 9 principaux concurrents réunis. Et c'est une activité encore en plein essor. Sur les 9 premiers mois de l'année 2017, le chiffre d'affaires a atteint 17 milliards de dollars, soit près de 10% des résultats de la firme.
Et c'est des services qui ne sont pas sans conséquences.
Absolument, car comme nous venons de le voir, qui dit machine learning dit big data, et qui dit big data dit immense ferme de serveurs. C'est même comme ça qu'a commencé l'aventure du cloud par la firme. Il s'agissait en effet de rentabiliser les immenses hangars de serveurs qui tournaient à vide la plupart du temps, sauf lors des périodes de fêtes ou pendant les soldes. Amazon décide alors de louer cette puissance de feu aux startups dans le besoin. Mais qui dit ferme de serveurs, donc, dit aussi consommation d'énergie et même pollution. Selon un rapport de Greenpeace, le secteur informatique est ainsi responsable de 7% de la consommation mondiale d'électricité. Cette consommation est même supérieure à celle de pays comme la Russie, le Japon ou l'Allemagne. Comme le souligne l'ONG, en 2020, le trafic Internet mondial pourrait avoir triplé. L'empreinte écologique du réseau serait alors encore plus importante, du fait notamment de l'augmentation de notre consommation de données et du nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale qui devrait passer de 3 à 4 milliards d'ici à la fin de la décennie. Toujours selon cette étude, la pollution générée par l'industrie du net serait ainsi équivalente à celle du secteur de l'aviation, car cette électricité est encore trop souvent produite par des usines très polluantes à charbon ou à gaz. Et si les géants du numérique, Google, Apple ou Facebook, se sont déjà engagés vers une énergie 100% renouvelable, Amazon accuse encore un retard avec plus de 50% de son électricité provenant des énergies fossiles.
Peut-être bien en avion, peut-être au sommet d'une montagne, peut-être au pied du mur, pris au milieu des embouteillages, peut-être un peu endormi, peut-être très pressé, peut-être une oreille attentive, discrète, occupée, peut-être au fond du trou, peut-être au bord du plaisir, peut-être que vous faites la vaisselle dans la vitrine d'un magasin, peut-être impossible à retracer, vos empreintes se sont effacées, peut-être que vous êtes plusieurs, peut-être que vous avez trop bu, peut-être que vous avez chaud ou froid, peut-être un goût métallique, peut-être dans votre bouche, peut-être au réveil un matin, peut-être que c'est merveilleux, vous venez d'avoir un enfant, peut-être qu'il n'en est pas question, peut-être que tout est épatant, vous avez des projets hallucinants, peut-être rien tout simplement. peut-être rien tout simplement.
Jérôme Minière, complainte d'un produit de l'imagination. Merci David Gaborio et François Lévesque d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre thèse, David Gaborio, des usines à colis, trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution qu'on découvrira peut-être publié bientôt. Quant à vous, François Lévesque, vous êtes l'auteur des Habits neufs de la concurrence, publié chez Odile Jacob. Vous pouvez réécouter nos émissions à l'infini et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour le débat de la semaine consacré aux multinationales et aux limites du pouvoir.
Peut-être il y en a trop dans ma tête, au fond je ne sais pas à qui je m'adresse, vous êtes tous des peut-être, et puis moi je ne suis qu'un produit de l'imagination, tout juste lancé sur le marché.